7h, 9h.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 avril. Il faut baisser les impôts. Édouard Philippe tire les premières leçons du grand débat. Le Premier ministre reconnaît l'exaspération fiscale des Français. Reportage auprès des retraités dans le journal de 7h dans quelques instants avec Hélène Zellani. À 7h40, l'édito de Jean-Michel Apathy. 8h15, Jean-Paul Bailly, garant du grand débat, qui sera l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara. Les impôts et la corvée de la déclaration de revenus, vous en recevez peut-être en ce moment dans votre boîte aux lettres. Ce sera peut-être aussi la dernière fois nos informations dans le journal de 8h. On les appelle les nouveaux Tanguy. À plus de 40 ans, ils reviennent habiter chez papa-maman. Dossier complet dans Europe 1, va plus loin à 7h20. On passera également un coup de fil à Étienne Chatillez pour la sortie de son film Tanguy, le retour. 7h45, je reçois l'un des humoristes préférés des Français. Gad Elmaleh viendra nous parler de sa nouvelle série événement sur Netflix. Il répondra aussi pour la première fois aux accusations de plagiat dont il est victime. Voilà pour le programme. Bon réveil à tous. Merci de nous faire confiance. On est ensemble jusqu'à 9h. Vous écoutez Europe 1.
Bon réveil sur Europe 1. Il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nicolas Aliagas.
Hélène Zellani aux commandes, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Les leçons du grand débat, la première pour Édouard Philippe, c'est la nécessité de baisser les impôts. Reportage auprès de retraités qui veulent un meilleur pouvoir d'achat. Trouver du travail, non pas en traversant la rue, mais en traversant la frontière. La Suisse tente de recruter des Français en Haute-Savoie. Il faut dire que les salaires sont bien plus attractifs. Et puis les footballeuses de l'équipe de France en grande forme. À 2 mois du mondial, elles ont écrasé le Danemark 4-0 hier soir.
Europe 1.
Une immense exaspération fiscale. C'est l'une des phrases clés du bilan du grand débat dévoilé hier par Édouard Philippe au Grand Palais. Le Premier ministre veut baisser plus vite les impôts et donc aussi les dépenses publiques. Certains représentants des Gilets jaunes dénoncent une réponse à côté de la plaque, du vent. Et les retraités, qu'en pensent-ils ? Nathalie Chevance leur a posé la question à Avignon, un petit groupe qui a activement participé à ce grand débat et veut maintenir la pression sur le gouvernement.
Quand le Premier ministre parle d'exaspération, Laure, 72 ans, retraitée de l'éducation nationale, salue un début de prise de conscience et retient ces mots employés par Édouard Philippe. Profond malaise, sentiment d'isolement, d'abandon.
On est un peu dans le vrai, peut-être même en dessous de la réalité. Ça s'approche un peu d'une révolte quand même. On lui dirait chiche quand il dit les services publics de proximité, les gens y tiennent et je les comprends. L'hôpital d'Avignon est menacé de 95 fermetures de postes. C'est énorme.
Hésiter serait pire qu'une erreur, ce serait une faute, a dit le Premier ministre. Alors Antoine, 72 ans, attend du concret pour augmenter son pouvoir d'achat.
Chiche, supprimer l'augmentation de la CSG, entre autres. Pour les retraités, nous demandons l'indexation sur l'augmentation des salaires. Et là aussi, nous disons chiche.
Décision forte et rapide pour Pierre. Retraité de la police nationale, cela passe notamment par la TVA.
Nous demandons justement que la TVA soit remise à taux réduit sur les produits de première nécessité, de manière à ce que les retraités puissent vivre dignement. Haute inquiétude aussi que nous avons. Si on touche un patient de renversion, on va mettre des tas de veuves dans des situations de misère.
Et toutes ces revendications, les retraités entendent les porter encore une fois jeudi à l'occasion d'une manifestation nationale. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et on entendait ce retraité réclamer une baisse de la TVA. Cette mesure semble écartée, trop chère et trop compliqué selon Gérald Darmanin. Édouard Philippe s'exprimera cet après-midi devant les députés. Il doit leur préciser les enjeux du grand débat.
L'Assemblée nationale qui a voté tard hier soir l'instauration d'une taxe sur les géants du numérique.
Oui, la taxe GAFA qui doit permettre de financer les 10 milliards d'euros promis en urgence en pleine crise des gilets jaunes. Elle touchera bien sûr les grandes entreprises américaines comme Amazon ou Airbnb ou Apple, mais aussi des françaises comme par exemple seloger.com. Son président Bertrand Stalder y voit une forme d'injustice.
L'image que j'aime bien employer, c'est la pêche au chalut. J'ai un gros filet qui traîne au fond de la mer et qui ramasse des gros poissons, mais aussi d'autres poissons plus petits qui n'avaient rien à faire là. Très concrètement, cette taxe, ça va être à peu près 6 millions d'euros supplémentaires par rapport à 30 millions d'impôts déjà. Donc c'est 20% finalement de taxation supplémentaire, alors que nous sommes déjà acquittés de l'impôt. Ce dispositif se justifie, le gouvernement a raison, il y a une iniquité au niveau fiscal. Néanmoins, la solution qui a été trouvée, pour nous, n'est pas la bonne.
Le président de seloger.com au micro européen d'Anne-Laure Jumet. Bercy présente ce matin la déclaration de revenus 2019. Elle sera bientôt en ligne dans notre espace personnel sur Internet. Ce sera probablement la dernière à remplir pour une bonne partie des contribuables. On va y revenir dans le journal de 8h. Et puis des suppressions de postes en vue à la Société Générale. 1600 postes dans le monde, dont 700 en France. Des départs volontaires dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Le détail du plan de restructuration doit être présenté ce matin.
Europe 1, il est 7h04.
Les anti-viandes avaient frappé à de nombreuses reprises dans les Hauts-de-France. Eh bien, ils ont été condamnés à la prison ferme hier.
Oui, deux militants véganes écopent de 6 et 10 mois ferme. Ils étaient accusés d'avoir dégradé ou incendié des restaurants, mais aussi des boucheries et des poissonneries, vitrines taguées avec le mot assassin en lettres rouges sang. Une audience suivie par Kevin Tuillier pour Europe 1.
À la sortie de l'audience, les militants véganes ne cachent pas leur incompréhension. Condamnés à de la prison ferme sans mandat de dépôt, ils dénoncent une injustice. Cette militante minimise même les violences sur les boucheries et poissonneries.
Une violence qui concerne des dégâts matériels est punie, alors qu'une violence commise envers des individus, elle n'est pas punie. Jour et nuit, il y a des individus qui sont torturés, qui sont massacrés, que ce soit dans les abattoirs, que ce soit dans les élevages. Cette violence-là, elle continue. L'esclavagisme s'est arrêté pas en étant pacifique. Toutes les grandes luttes ne sont pas arrêtées de manière pacifique.
Face à ce risque de récidive, 3 des 4 militants ont vu leur condamnation assortie de 3 ans de mise à l'épreuve, de quoi pallier des peines plutôt légères, de l'avis de l'avocat de la Fédération des Bouchers du Nord, Damien Legrand.
Pour nous, c'est, on l'a dit, pas satisfaisant dans l'absolu. Néanmoins, on se félicite du fait que le tribunal note spécifiquement ce caractère évident d'un risque de réitération. Pour nous, c'est positif. Maintenant, on espère que cette décision aura eu le mérite de marquer un point d'arrêt aux agissements qui ont été perpétrés.
Les antispécistes n'excluent pas de faire appel de ces condamnations dans quelques jours.
Kevin Tuillier à Lille pour Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, la Suisse qui cherche à recruter des travailleurs français. Les messages sont même imprimés sur des sachets de pain, on vous dit tout dans quelques instants, juste après ça, tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, des pubs pour inciter les salariés français à traverser la frontière et à venir travailler en Suisse, ça existe.
Oui, ça se passe en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, spécialisée dans le décolletage, autrement dit la fabrication de pièces de précision pour l'industrie. Un secteur déjà en pénurie de main-d'œuvre où les chefs d'entreprise voient d'un très mauvais œil l'initiative de la Suisse voisine, qui cherche donc à débaucher les salariés avec des arguments financiers plutôt convaincants. Reportage de Jean-Luc Boujon.
Au départ, c'est un petit sachet tout banal, celui dans lequel la boulangère glisse votre baguette. Mais celui qui est distribué depuis quelques jours à Cluses est particulier, tout rouge avec le drapeau suisse et une offre d'emploi.
Vous êtes titulaire d'un bac pro, d'un BTS ou d'un CAP BEP en mécanique ou micromécanique, contactez-nous et faites carrière en Suisse.
Une initiative qui ne plaît pas du tout à Louis Pernard, représentant des patrons des usines de décolletage qui font vivre la région depuis des décennies. Pour lui, c'est tout simplement du pillage de main-d'œuvre.
Nous, aujourd'hui, notre principal frein à la croissance, c'est l'absence de main-d'œuvre qualifiée. On ne peut pas continuer à faire de ce côté-là de la frontière énormément d'efforts pour investir dans la filière de formation, faire émerger des nouveaux talents, et puis dès qu'on est prêt, se les faire piller par nos voisins helvétiques. C'est plus possible.
Car les patrons suisses ont un argument de poids, les salaires deux fois plus élevés qu'en France. Pas étonnant donc que l'idée plaise beaucoup à Aurélien, 24 ans, qui vient d'acheter son pain.
Ah ok, d'accord, ça m'intéresse, ouais, bien sûr. J'ai travaillé souvent dans le décolletage ici, pour 1 500 €, c'est pas top, ça vaut pas le coup.
Alors qu'en Suisse,
4 000 minimum, moi je cours tout de suite.
Une situation rare donc, avec des salariés qui n'ont que l'embarras du choix et sont courtisés en Suisse et en France. Ici dans la vallée de l'Arve, ce sont des centaines de postes dans le décolletage qui sont à pourvoir. Cluses, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
En Israël, les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure. 6 millions de personnes votent pour élire les 120 députés du Parlement, la Knesset. Les sondages donnent favori le parti de centre-droit de Benny Gantz. Mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait être le seul à pouvoir former une coalition.
On va parler de foot féminin maintenant, puisque l'équipe de France a brillé hier soir contre le Danemark.
Oui, à 2 mois du coup d'envoi du Mondial en France, elles ont facilement battu les vice-championnes d'Europe 4-0, Jérôme Lacroix.
Et ce devant 16 000 spectateurs à Strasbourg après la semaine dernière, 15 000 personnes à Auxerre pour un succès 3-1 face aux vice-championnes du monde japonaises. Début du spectacle, de l'ambiance, les coéquipières de la capitaine Amandine Henry cochent toutes les cases.
4 buts pour le dernier match du stage, ça fait du bien et ça fait le plein de confiance. En plus, je pense qu'il y a eu la manière, donc oui, beaucoup de sourires ce soir.
Et oui, tout sourit en ce moment à ces Françaises. Les résultats, le succès populaire, c'est le double effet Miss Cool avec comme conséquence 11 victoires pour une seule défaite lors des 12 derniers matchs pour une bande. En osmose, comme le décrit l'expérimenté Gaëtan Tiné.
On monte en puissance, on se sent de mieux en mieux, on a de plus en plus d'automatisme. C'est des choses qui sont difficiles à trouver.
Et la prochaine étape lancera vraiment le Mondial d'ici le 15 mai. Révélation de la liste des joueuses retenues pour la compétition.
Et grâce à vous Jérôme, j'ai découvert le double effet Miss Cool.
Et les gens et les auditrices et auditeurs qui nous écoutent ce matin peuvent vous voir également sur europe1.fr. Ils me demandent des photos, je viens d'en poster. Et vous aussi à la maison, postez-moi une photo de votre ordinateur, par exemple, si vous écoutez sur europe1.fr la matinale, si vous êtes en voiture du poste radio. Bref, partageons, échangeons. Merci Hélène Zélani, à demain.
Avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas.
Et il est 7h10, c'est l'heure de retrouver Carole Ferry, Nikos, sur le terrain.
Where are you? Vous êtes où, Carole, ce matin? Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Je suis sur l'un des plus vieux trois mâts d'Europe encore en état de naviguer. Un voilier qui va fêter ses 123 ans cette année. Je vous embarque à bord du Belém à la Seine-sur-Mer. Un 58 mètres, 21 voiles, classé monument historique. Et pour vous donner une idée, direction le bureau du capitaine, le commandant Thirion.
On va descendre. Et là, c'est le bureau dans lequel j'ai la chance de travailler.
C'est très chic.
C'est très chic, en effet. Il y a déjà le mobilier, c'est du bois. Il y a une grande banquette à côté.
Banquette rouge.
Une banquette rouge, tout comme le fauteuil qui se trouve derrière vous, cuir rouge également. À côté de la table, il y a cette bibliothèque anglaise qui est en acajou. Je vais être le capitaine de la marine marchande française, qui est le plus beau bureau.
C'est très chic, mais est-ce que c'est un bateau sur lequel on peut naviguer, Carole?
Bien sûr, d'ailleurs, il redémarre en ce moment sa saison. Alors, il part tout à l'heure pour 4 jours en mer, direction Nice, avec 48 stagiaires à bord, dont Marie-Claire. Elle a 67 ans, elle est ancienne prof de gym.
Magnifique.
Et complètement sous le charme.
Je le touche, je suis dessus, ça fait partie de mes vieux rêves. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Regardez cette allure qu'il a, il est beau, quoi. Voilà, donc je serai sa petite infirmière pendant 4 jours.
Et oui, sa petite infirmière, car on ne chôme pas à bord. Hein. Vous vivez vraiment le quotidien d'un marin. Dormez dans des bannettes, des petites couchettes en bois très étroites. Le matin, il faut astiquer les cuivres, nettoyer le pont. Vous participez à toutes les manœuvres. C'est très physique, hein, avec notamment des roulements toutes les 4 heures, y compris la nuit. Mais ça n'empêche pas Thierry de venir d'Alsace pour la 3e fois.
Mais c'est ça qui est bien, découvrir les étoiles en pleine nuit, avoir froid vraiment, quand la mer passe par dessus bord, prendre la pluie dans le visage, c'est ça qui est bien. Hein. Le matin en se levant, on partage le repas des dauphins, parce que souvent il y a des dauphins qui viennent à côté, ils viennent jouer, quoi. Lever de soleil, voilà.
Enfin, vaut mieux pas avoir le mal de mer, clairement.
Ouais, alors écoutez Nico, il paraît que ça arrive régulièrement, hein, même quand on a l'habitude de la voile. Mais le capitaine m'a confié son truc, quand on est malade, eh bien il faut se nourrir de bananes.
Évidemment, il est avec vous le capitaine Thirion?
Il est juste à côté de moi Nico.
Mon capitaine, est-ce que vous avez besoin d'une moussaillonne? Bonjour.
Bonjour Nikos, on serait ravis d'embarquer, bien sûr, Madame Ferry à bord, tout à fait.
Ok, on fait le contrat, je vous appelle tout à l'heure. Merci beaucoup, vous avez de la chance d'être sur ce magnifique trois mâts, c'est vraiment unique et j'imagine que dans vos têtes à chaque fois c'est une invitation au voyage.
C'est un navire exceptionnel et c'est une vraie chance d'être à bord et de pouvoir le faire marcher à la voile, vraiment.
Merci mon capitaine, je vous dis pas bonne journée et il y a une phrase qu'on dit pas, on dit jamais bon vent, on dit plutôt bonne route. Bonne route à vous.
Merci beaucoup, ou bon vent au pluriel.
Ouais, évidemment, c'est toujours au pluriel, il y en a tellement. Carole Ferry était à bord du Belém ce matin sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, l'édito éco avec Nicolas Barré. L'Europe change de ton dans le bras de fer commercial qui l'oppose à la Chine, mon cher Nicolas.
Oui, et les Européens ont décidé de revêtir la tenue de combat face aux Chinois.
Ah, ça va être dur.
Ça va être le bras de fer.
Le fight. 7h20, on l'appelle la génération boomerang. Ce sont les nouveaux Tanguy. Vous savez, ces adultes qui, à plus de 40 ans, reviennent habiter chez leurs parents. On en parle dans Europe 1 va plus loin. On va passer aussi un coup de fil tout à l'heure au réalisateur Étienne Chatillès, puisque son film Tanguy, le retour, sort demain au cinéma. Excellent réveil à tous.
Et il est 7h14 sur Europe 1. Les 7h16, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Édouard Philippe attendu devant l'Assemblée aujourd'hui. Le Premier ministre doit présenter les enjeux du grand débat, préciser son sens politique sans pour autant dévoiler les mesures concrètes. Plus de 6 millions d'Israéliens appelés à voter. Ils doivent élire leur Parlement et parmi une quarantaine de listes, deux sont favorites. Celle de Benjamin Netanyahou et de son adversaire de centre-droit, Benny Gantz. L'air est trop pollué dans 12 communes de la métropole lilloise. Résultat, la préfecture remet en place la circulation différenciée. Seules les voitures avec la vignette critère 0, 1, 2 ou 3 peuvent circuler aujourd'hui.
Europe 1. L'édito éco, c'est maintenant avec la Banque Courtois, Nikos, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Courtois, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Un sommet Europe-Chine se tient aujourd'hui à Bruxelles. Le Premier ministre chinois a fait le déplacement. Et l'ambiance, il faut bien le dire, Nicolas, est au bras de fer.
Oui, et pour vous situer le contexte, je vous cite deux chiffres qui, je crois, disent tout. L'Union européenne importe 400 milliards d'euros de marchandises made in China. Nous, on en exporte 200. Donc, 400 dans un sens, 200 dans l'autre. Ce sont les chiffres du déséquilibre, mais pas seulement. Vu du côté européen, cela montre surtout que le match est inéquitable. D'un côté, l'Europe est le marché le plus ouvert du monde, même plus ouvert que que les États-Unis. Et puis de l'autre, la Chine joue selon ses propres règles pour favoriser ses entreprises avec des subventions plus ou moins déguisées, des transferts de technologies forcés et des entraves multiples qui compliquent la vie des étrangers en Chine.
Et ce sont précisément tous ces reproches que l'Europe va décliner devant le Premier ministre chinois.
Voilà, on a décidé de changer de logiciel. L'Europe a compris qu'avec la Chine, comme avec les États-Unis de Trump d'ailleurs, seul le rapport de force compte. Même l'Allemagne toute seule ou la France toute seule, a fortiori, ne font pas le poids. C'était déjà le message adressé au président Xi Jinping lors de sa visite à Paris, où Emmanuel Macron avait fait venir Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Il s'agissait de dire, en matière économique, nous sommes unis face à vous. Le changement de ton est donc très net. La Commission européenne, vous savez, décrit la Chine à la fois comme un partenaire, cela va de soi, un concurrent, c'est vrai aussi, mais également un rival systémique. Et là, vous noterez le changement de gamme, disons.
Rival systémique. Voilà. Bref, on durcit le ton, en fait, clairement.
Oui, et c'est vraiment le bon moment pour le faire, parce que les Chinois ont déjà l'imprévisible Trump sur le dos, leur croissance ralentit, ils ne veulent pas ouvrir un nouveau front avec l'Europe. Or, jusqu'ici, ils ne croyaient pas une seconde que nous serions capables de rester unis face à eux. Ils étaient persuadés qu'ils pourraient nous diviser, un peu comme les Britanniques avec le Brexit. D'ailleurs, Pékin a toujours pour ambition de nous diviser, d'où l'accord il y a quelques jours avec l'Italie pour embarquer Rome dans son projet de route de la soie. L'enjeu donc du sommet de Bruxelles, c'est au contraire de montrer que nous n'avons pas peur du bras de fer, que nous défendons pied à pied nos intérêts, que l'Europe, en gros, n'est pas une puissance molle. Ce sommet de Bruxelles sera un bon test.
Merci Nicolas Barré, c'était l'édito Écho sur Europe 1.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19 à l'occasion de la sortie demain du film d'Étienne Chatillès, Tanguy le retour. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au phénomène de la génération boomerang.
Ces adultes qui, à plus de 40 ans, reviennent habiter chez leurs parents. On passera un coup de fil dans quelques instants en direct à Étienne Chatillès, vous savez, le réalisateur de ce fameux film, puisque Tanguy le retour revient demain au cinéma. Mais d'abord, on va parler avec vous, Eve Roger, chef du service société de la rédaction. Bonjour.
Bonjour.
Ça paraît assez fou de revenir au bercail à cet âge-là.
Oui, la seule étude sur le sujet date de 2015 et elle montre que 7% des 30-50 ans et même 3% des plus de 50 ans ont vécu cette drôle d'expérience. Alors ça fait une vingtaine d'années que le phénomène apparaît dans les statistiques, mais il a été amplifié en 2008 avec la crise économique et la flambée du prix d'immobilier.
Et on imagine que ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur que ces adultes reviennent à la maison.
Et oui, dans 90% des cas, c'est un choix contraint. La première raison, c'est une séparation ou un divorce, compliqué de payer un loyer tout seul, ensuite un licenciement et enfin des difficultés financières. On n'a plus les moyens de subvenir à ses besoins. Alors c'est ce qui est arrivé à Nicolas, il a 41 ans aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il a retrouvé sa chambre d'adolescent après la faillite de son entreprise informatique et ce sont ses parents eux-mêmes qui lui ont proposé de revenir et vous allez l'entendre, ça l'a évidemment soulagé, mais ça crée aussi quelques contraintes.
Vous ne pouvez pas inviter des amis juste à prendre l'apéro, à manger. Des tensions, oui, sur l'heure des repas parce qu'il m'arrivait peut-être de ne pas revenir à l'heure ou des choses comme ça. Et j'ai des parents qui sont assez rigides sur l'horaire avec des repas assez fixes. Les anecdotes du pire moment, on va dire, c'est peut-être le fait de, d'essayer d'avoir à nouveau une vie intime. Vous revenez qu'une personne chez vos parents. Votre chère maman, on va dire, se demande ce qui se passe et débarque dans la chambre, par exemple. C'est arrivé une fois, oui. C'est marrant, c'était des flashbacks de mon adolescence, parce que c'est des choses que j'ai vécues quand j'étais ado, quand je vivais chez eux. Non.
Alors, il y a une dimension anecdotique, mais réellement, qu'est-ce qu'on éprouve quand on doit revenir, vivre chez ses parents et qu'on est adulte, quoi?
Eh ben, le plus souvent, c'est un sentiment de honte et puis de culpabilité. De honte parce qu'on le vit comme un échec et puis de culpabilité parce que les parents sont souvent des retraités. Ils ne roulent pas sur l'or. Et ils se retrouvent avec une bouche à nourrir en plus et parfois deux ou trois. Car parfois, ces adultes, après un divorce, reviennent aussi avec des enfants.
Et les parents le vivent comment, ce retour ?
Eh bien, pas très bien non plus, même s'ils sont contents de jouer leur rôle de parents ou de grands-parents.
Grands-parents,
c'est vrai, quand on est jeune retraité, on a envie de profiter de son temps libre, de faire chambre à part, si on a envie, ou au contraire, de retrouver une intimité. Et ces intrus gâchent évidemment ces moments-là. D'ailleurs, dans le film, on sent bien le désarroi des parents de Tanguy, revenus à 44 ans. André Dussollier et Sabine Azéma ont donc décidé d'agir. Écoutez.
Faut qu'on parle. Ça va pas recommencer, Tanguy. T'as 44 ans, il n'est pas question qu'on revive ce qu'on a vécu il y a 16 ans. C'est un bon souvenir pour personne.
Vous avez raison, c'est pas un bon souvenir. Laissez-moi juste le temps de me retourner. Faut que je me trouve un vrai boulot et surtout que je cherche un appartement. Bonne journée.
J'espère qu'il a compris.
Et puis voilà, donc selon certaines études, le comeback dure en moyenne un an parce qu'après, de l'avis de tous, c'est plus tenable.
Merci Eve Roger, chef du service Société d'Europe 1. On est en direct avec Étienne Chatillès. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Le Tanguy de votre film, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, a l'air très content de revenir chez ses parents, lui.
Ah oui, parce que la réalité est sinistre, donc pour un film, ça ne tient pas deux secondes. C'était comme dans le premier Tanguy. La différence entre les Tanguy et le nôtre, c'est que le nôtre, il a toujours eu de l'argent.
Oui.
Donc c'est un vrai désir de rester chez les parents.
Voilà. Il est poussé par autre chose. Il est enseignant, il a les moyens de s'assumer, mais il préfère rester chez papa-maman. Mais c'est un désir ou c'est aussi un peu de paresse?
Oh non, je crois qu'il est mal réglé, il a une pathologie. c'est un psychopathe. Donc non, mais il a un vrai problème, quoi. Il a un vrai truc. Il est pas bien réglé, je vous dis.
Oui. Vous aimez bien ces situations de tension, mais c'est quoi la morale de l'histoire de ce film, en réalité? C'est, ils ont tous besoin d'amour, mais ils savent pas comment le dire?
Oh non, surtout pas. Oh non, non. Non, non, c'est, je pense que tous les parents du monde ont beau adorer la chair de leur chair, une minute par jour, ils ont envie de le buter, quoi. Et, c'est pas la morale, mais je pense que ce qui fait l'intérêt ou le succès du film, du sujet, en tous les cas, c'est justement parce que, ça parle de ça, et je pense que c'est beaucoup plus universel et profond, hein, qu'on n'a jamais le droit de le dire, plutôt que du phénomène sociétal.
On aura
je pense que le cœur de la chose se situe là-dedans.
On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui sur notre antenne, puisqu'on vous retrouve à partir de 11h dans l'émission. Dan Roumanoff, Étienne Chatillez, merci d'avoir été avec nous ce matin. Tanguy Le Retour, c'est en salle demain. Et on retrouvera évidemment le Tanguy historique, Éric Berger.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Anissé Mbida, lui, c'est pas Tanguy. C'est plutôt l'inventeur ou celui qui innove quotidiennement. Vous avez quoi comme innovation ce matin?
Des voix extrêmement expressives générées par ordinateur qui sont impossibles à distinguer des voix humaines.
Jeanne d'Arc ou voix réelle?
Des voix réelles, bon. Mais Céline Dacosta virtuelle.
À tout de suite.
Bon réveil à tous sur Europe 1 avec Nico Saliagas, il est 7h24. Et 7h26, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissé Mbida, Nikos.
Alors, on parle tous de l'intelligence artificielle, des ordinateurs, vous savez, ces voix qui vous accompagnent, que ce soit sur le quai de la SNCF, par exemple. Quai 3, il est... C'est toujours très compliqué. Ou alors, quand on appelait il y a quelques années, la nouvelle génération ne sait pas pour l'heure. Mm-hmm. Vous savez, au quatrième stop, il sera exactement 7h23. Là, c'est terminé. La voix bizarre, c'est terminé, Anissé.
Oui, c'est fini les voix de robots monocordes, hein, qui n'ont aucune expression. Écoutez, c'est un message en anglais, mais celui-ci, écoutez bien, il est 100% généré par ordinateur.
United Airlines 563 from Los Angeles to New Orleans has landed.
C'est bien une voix de synthèse, hein. C'est-à-dire qu'on a tapé un message et la machine le répète. Hein. Du coup, on peut même changer de style, hein, y avoir quelque chose d'un peu plus grave.
United Airlines 563 from Los Angeles to New Orleans has landed.
C'est bluffant, hein, quand même. Hein.
Ah oui, vraiment.
C'est un ordinateur, c'est une technique qui a été mise au point par des chercheurs de Google et on peut, comme ça, changer la voix et ça nous change du classique, hein, comme vous disiez tout à l'heure.
United Airlines 563 from Los Angeles to New Orleans has landed.
Là, on a un peu plus l'habitude. Hein.
Oui. Oui. C'est de la recherche ou ce sont des voix qu'on pourrait utiliser?
Alors ça va pas tarder, notamment sur les vidéos sous-titrées qu'on voit beaucoup en ce moment sur Internet. Ceux qui les publient, ils ont rarement les moyens d'embaucher un acteur pour faire la voix. Eh bien la start-up Wellset va bientôt leur proposer d'ajouter une voix synthétique qui est quasiment impossible à distinguer d'une voix humaine. Mais on pense surtout aux livres audio qui vont pouvoir être générés automatiquement avec des vraies belles intonations. Il y a aujourd'hui des banques d'images, il y a des banques de sons, et bien bientôt il y aura aussi des banques de voix générées par ordinateur, mais jamais aussi belle que notre Céline Dacosta.
Oui, et puis c'est bien qu'il y ait des comédiens encore qui ont juste...
Oui, non, mais la vraie histoire, c'est qu'on pourra aussi faire parler des morts, c'est-à-dire qu'utiliser la voix, remonter la voix
des
personnes.
Handicapés qui ont des problèmes pour parler, on pourrait régénérer leur voix avec des expressions. Ce qui manque aujourd'hui, on a des voix, Stephen Hawking, dont on se souvient qu'il y avait une voix très robotisée, on pourrait avoir une vraie voix normale.
Merci infiniment, Anissé Mbida. Je parlais de la SNCF tout à l'heure, mais je ne parlais pas de la voix de Simone, cette voix magnifique qui nous accompagne. C'est une comédienne, c'est une femme exceptionnelle. Je l'avais rencontrée. C'est la voix de cette femme qu'on écoute quand on est
dont
sur le
quai. Dont la voix a été immortalisée par ordinateur.
Absolument. Merci, Anissé Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kalman, mais tout de suite, la météo, Nico.
Mais Anissé, vous savez, vous laissez Laurent Cabrol sur une île. Sans téléphone portable, sans ordinateur, sans journaux, sans dépêche, il vous donne la météo.
C'est une grenouille, notre ami.
Le ciel me parle. Les grenouilles, non, mais le ciel me parle.
Ben oui, parce qu'il sait lire et entendre le vent.
Oui, d'accord, j'arrive. Alors,
c'est une histoire de doigts, hein, toujours. Allez-y.
Le temps est vraiment troublant aujourd'hui. Se côtoient les gros nuages, les averses, les giboulées, les orages. Enfin bref, c'est un temps très agité. Et nous allons vivre donc à ce rythme. Alors, nous avons quand même un front bien constitué. C'est drôle parce que depuis à peu près 2 heures, j'attends qu'il arrive sur Paris.
Et
puis, il n'est pas encore là. Donc, je vous dirai tout à l'heure où il est parce que là maintenant, c'est pratiquement tout ce que j'avais à dire. Les orages sont quasiment généralisés et nous aurons même des éclaircies sur les pays de la Loire, la Bretagne, la vallée de la Garonne et le Poitou-Charentes sous les températures douces. La suite au prochain numéro.
Ok, avec grand plaisir. Tout à l'heure, Laurent.
À suivre, Nicolas. Europe 1, Europe 1. Il est 7h57. Nikos, petite précision, c'est Nicolas qui nous écoute depuis New York dans le train.
Exactement.
Et tout de suite, c'est l'heure de la petite histoire du jour.
Vous savez quoi, Jean-Philippe Alas, ce matin, vous êtes d'humeur cathodique et nostalgique.
Oui, l'époque où l'on s'asseyait en tailleur devant le dieu téléviseur pour regarder ça. Chapeau melon et bottes de cuir. Et je magnifique. Ne vais pas tricher les amis, autant je trouvais que le héros, John Steed, était sympa avec son flegme forcément britannique, autant le personnage qui me fascinait en vrai, c'était elle, sa complice, Emma Peel. Son air futé, ses combinaisons affûtées, le peps, l'élégance, le second degré en toutes circonstances. Incarnée par une actrice, Diana Rigg, et si je vous en parle ce matin, c'est parce que l'icône est passée nous voir en France il y a quelques jours. Diana Rigg, 80 ans, toujours la classe, mais qui vous raconte aussi le côté obscur. Sa colère à l'époque, lorsqu'elle découvre qu'elle est singulièrement moins bien payée que les hommes, et qu'elle est manifestement la seule que ça gêne sur le plateau. Est-ce que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui ? Je mets des points dessus. 50 ans plus tard, Diana Rigg est toujours là, toujours droite dans ses bottes de cuir et désormais au générique d'une autre série culte. Ça s'appelle Game of Thrones. Oui, je
mais
sais.
C'est elle.
La saison 8 arrive à la fin de la semaine. Calmez-vous les gens, les fans, c'est l'effervescence totale. Oui, Nikos, absolument. Je sens le choc des générations parce qu'il y a la mienne, la vôtre, qui n'avait pas forcément remarqué que la fille de chapeau mono et bottes de cuir était dans la série. Et l'autre génération qui demande « C'est quoi chapeau melon et bottes de cuir ?» Bah vous savez quoi ?
Ou Game of Thrones.
Vous devriez jeter un œil les petits, parce qu'elle est encore furieusement moderne, Emma Peel.
Elle s'appelait bien Purdey.
Non, Purdey c'était la saison suivante.
Ah bon ?
Emma Peel.
Ah c'était Emma Peel, c'était...
Diana Rigg.
Bah, j'ai rien compris.
Purdey années 80 plutôt.
On n'aime pas la même. Merci Jean-Philippe Ballas.
À suivre le journal de David Doucan.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Et la météo tout de suite, Laurent Cabrol.
Agité, orageuse, Laurent.
Très orageuse. Sur la plupart des régions, on peut imaginer des orages à peu près partout, mais ils ne seront pas forcément les uns derrière les autres, bien sûr. Ce sont des orages isolés, mais quand il n'y en a pas, ce sont des giboulées qui se manifestent. Avec une petite parenthèse, pour les pays de la Loire, la Bretagne, le Poitou-Charentes, la vallée de la Garonne, où là, après les brouilles, surtout ce matin, et en région parisienne, vous avez déjà eu quelques orages, et il y aura de la pluie encore en matinée. Quant aux températures, ce sont les températures douces pour la saison, entre 14 et 18 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et bienvenue si vous nous retrouvez sur Europe 1. Il est 8h, très bon réveil. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La déclaration de revenus, même avec le prélèvement à la source, il faut tout de même la remplir. Cela commence ces jours-ci. Europe 1 à votre service avec Anne-Laure Jumet qui répondra à toutes les questions dès le début de ce journal. Le dossier
merci, ceux dont la situation ne change pas d'une année sur l'autre, entre 6 et 8 millions de foyers de contribuables sur 10. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin en nous incitant à mettre à jour au fil de l'eau notre situation fiscale. Alors, il y a la question des indépendants et puis aussi celle des niches fiscales, hein, nombreuses en France. La disparition pour tous n'est donc pas encore pour demain.
Merci à vous, Anne-Laure Jumet, pour toutes ces informations.
David, on va parler maintenant de ces mères célibataires qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts.
Oui, parce que bien souvent, dans la précarité, c'est un problème majeur qui a été mis en lumière par la crise des Gilets jaunes et par le grand débat national. Parmi les annonces que prépare le gouvernement, plusieurs mesures les concerneront directement. Justin Morin.
Leurs témoignages ont été récurrents sur les ronds-points de Gilets jaunes. Emma pourrait toutes les représenter. Rencontrée à Lorient par François Coulon, elle s'occupe seule d'une petite fille handicapée de 7 ans. Cette mère isolée est passée de 2400 euros par mois en couple à 700 euros.
Je ne vis pas, je survis, monsieur. On va à l'essentiel et même l'essentiel est difficilement atteignable. Ma fille ne manque jamais de rien, mais les repas pour moi, c'est souvent que des pâtes. On survit.
Les associations les ont pourtant identifiées depuis longtemps. Au Secours catholique, elle représente un tiers des familles accueillies. Mais il s'est bien passé quelque chose, confirme Véronique Fayet, présidente de l'association.
Le mérite de cette crise des Gilets jaunes, effectivement, c'est d'avoir rendu visible des gens qu'on ne voit jamais dans l'espace public, parce qu'elles sont seules pour tout. Elles n'ont pas le temps d'aller prendre part au débat public habituellement. Donc elles ont justement crié leur solitude, et leur isolement et leur besoin, qui est un peu de collectif, des lieux de convivialité, des lieux où elles parlent de leurs soucis d'éducation des enfants. Donc effectivement, il y a du pain sur la planche.
Le gouvernement a déjà entamé des tables rondes avec les associations qui désormais attendent des actes.
Justin Morin pour Europe 1, et j'ajoute que le Premier ministre continue d'exposer le bilan du grand débat national. Cela se passera à l'Assemblée devant les députés cet après-midi et demain au Sénat.
Le père Hamel va-t-il être béatifié ?
C'est la question à laquelle le Vatican va devoir répondre. Nous nous souvenons du prêtre Jacques Hamel, 85 ans, assassiné dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray par deux djihadistes. C'était le 26 juillet 2016. L'archevêque de Rouen est arrivé hier à Rome. Il va remettre aux autorités ecclésiastiques un dossier plaidant pour que le père Hamel soit reconnu comme martyr. Théo Manval l'a rencontré avant son départ.
Ce sont 6 gros cartons, 11 000 pages de dossiers que Mgr Lebrun s'apprête à remettre à la Congrégation des Causes des Saints, le fruit de 2 ans d'enquête du diocèse de Rouen pour faire reconnaître le père Hamel comme martyr.
C'est quelque chose de très important pour notre diocèse et je pense pour l'Église entière. Beaucoup de gens le demandent et je me sens en fait porteur, pas seulement de papier, mais aussi du désir d'un grand nombre de reconnaître en ce prêtre très simple, la banlieue de Rouen, un homme finalement extraordinaire.
Pour ouvrir la voie à une béatification, il faut prouver la mort violente, l'attaque en raison de la foi, mais aussi le fait de ne pas avoir cédé. Mgr Lebrun s'appuie là sur les derniers mots lancés par le père Hamel aux terroristes.
Quand il dit « va-t'en Satan », voilà, il a été jusqu'au bout de son engagement, offrir sa vie.
Et pour appuyer la remise de ce dossier, l'archevêque est accompagné à Rome de 40 jeunes du diocèse qui témoignent, eux, de la personnalité du prêtre.
Il ramenait de la joie de vivre dans les groupes. Il était ouvert à toutes les religions, avec la communauté musulmane d'autour.
Il est mort dans une injustice. Pour continuer de combattre ces injustices, il faut qu'il soit reconnu.
Mais la Congrégation des Causes des Saints pourra mettre plusieurs années avant de rendre son avis au pape, qui sera ensuite le seul à prendre la décision finale.
Reportage de Théo Manval pour Europe 1. La contre-offensive médiatique de Carlos Ghosn. Ses avocats japonais viennent d'entamer une conférence de presse à Tokyo. Ils vont diffuser dans les minutes qui viennent une vidéo réalisée par l'ancien patron de Renault juste avant d'être à nouveau incarcéré. On verra si Carlos Ghosn met en cause nommément des cadres de Nissan dans ce qu'il considère être un complot. Nous vous tiendrons informés de tout cela dans nos prochaines éditions.
Europe 1.
À suivre dans le journal, le Parlement et le Sénat algériens vont désigner aujourd'hui un président par intérim. Nous serons à Alger avec notre envoyé spécial dans un instant. A tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Le journal de 8h avec David Doucan. Les Algériens vont avoir un nouveau président par intérim.
Oui, les deux chambres du Parlement se réunissent ce matin pour désigner cette personnalité. La Constitution prévoit que ce soit le président du Sénat, qui est un très proche d'Abdelaziz Bouteflika. La rue rejette donc cette perspective. Avec nous, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Alger, Sébastien Krebs. Sébastien, les élus d'opposition vont carrément boycotter la séance ?
Oui, ils vont laisser leurs chaises vides ce matin. Les quelques dizaines de députés d'opposition refusent de cautionner ce qu'ils considèrent comme une mascarade, un entêtement du pouvoir en place. Pour le député socialiste Ali Lascri, c'en est fini. Il a démissionné de ce Parlement qui, pour lui, n'a plus de raison d'être.
J'ai démissionné tout simplement parce que il n'y a aucun changement, c'est la continuité. Ils vont encore se renforcer, se consolider. C'est suicidaire de rester dans ces institutions. On n'a plus rien à faire là-bas. Au contraire, il faut sortir. Il faut être dans la rue avec le peuple.
Et la rue, justement, est toujours occupée. Un rassemblement quotidien dans le centre-ville d'Alger. Comment imaginer que le président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, pur produit du clan Bouteflika, se retrouve chargé de la transition ? Inconcevable pour ces jeunes manifestants.
Ça a été l'un des meilleurs alliés de Bouteflika. On ne peut pas garder quelqu'un du même système. C'est pas possible.
Ils choisissent qui ils veulent. C'est illégitime pour nous. C'est le même clan, c'est la même trempe. On n'en veut pas. On veut aller vers une nouvelle constitution.
Pour eux, aucune transition démocratique ne pourra aboutir au sein des institutions existantes en qui personne n'a confiance. Il faut tout balayer et tout reconstruire.
Merci à vous Sébastien. Sébastien Krebs, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Alger. Theresa May sera aujourd'hui à Berlin, puis à Paris, où elle s'entretiendra avec Emmanuel Macron. La première ministre britannique plaidera en faveur d'un report du Brexit. Les 27 décideront demain, lors d'un sommet européen à Bruxelles, s'ils accordent ou non un délai pour la sortie de l'Union européenne.
Une exposition maintenant dans la capitale qui ressemble à une boîte de nuit.
Oui, cela s'appelle Electro, c'est à la Philharmonie. Cela raconte l'histoire de ce genre musical, de Kraftwerk à Daft Punk. Diane Chenouda.
Pour répondre dans ce domaine-là.
Parce que sinon, on se demande à quoi bon un grand débat si à la fin, Emmanuel Macron décide tout seul dans son bureau.
Peut-être qu'il le fera. Peut-être qu'il le fera. Mais moi, en tant que garant aujourd'hui, je ne peux pas aller sur la recommandation politique parce que précisément, tout à l'heure, en fin de matinée, on va remettre notre rapport. Et à la fin de notre rapport, le temps des garants, donc comme le temps du grand débat, est terminé. Et c'est-à-dire que vient l'heure du politique.
Oui.
Voilà.
Et c'est sans doute le plus compliqué.
Sûrement.
Le rétablissement de l'impôt sur la fortune de l'ISF, le RIC, et la suppression des 80 km/h, Jean-Paul Bailly, étaient les revendications prioritaires des Gilets jaunes. Ces mesures ont-elles été plébiscitées par les Français ?
Bah écoutez,
C'est un peu comme je le disais déjà tout à l'heure, l'exercice n'est pas du tout le même. Si vous demandez aux Français s'ils sont d'accord sur tel ou tel point, ils vont vous répondre avec un certain pourcentage. Mais ce n'est pas la question qu'on leur a posée dans le grand débat. On leur a demandé qu'est-ce qui était le plus important pour
et
eux.
Et l'ISF, et donc, le RIC, les 80 km ne reviennent pas.
Ces points-là sont figurent parmi les points dont les Français disent qu'ils sont importants pour eux. Mais quand on leur pose une question globale, comme par exemple, qu'est-ce que vous pensez sur la fiscalité pour qu'elle soit moindre et plus juste. Ils ont plein d'idées, dont la suppression de l'USF. Mais ce n'est pas que la suppression de l'USF. Donc c'est beaucoup moins manichéen que ne peut l'être un sondage.
La santé, qui n'avait pas été un des quatre thèmes choisis, revient beaucoup. Les Français sont très préoccupés par leur santé.
Oui, oui. Oui, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui était très frappant parce que il y avait quatre thèmes au départ. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir que la parole était suffisamment libre pour qu'il y ait d'autres thèmes qui émergent, dont celui de la santé, qui a émergé très, très, très fort. Aussi bien sur le thème, on va dire, des déserts médicaux que sur le thème de la grande vieillesse. Hein. Là, c'est vraiment un point très, très fort.
Et l'immigration ? L'immigration, oui. Les Français s'en préoccupent-ils vraiment ?
Ben, l'immigration, c'est un point qui n'était pas, qui figurait pas véritablement, mais qui est sorti assez modestement et sous un angle assez particulier qui est, au fond, les immigrés, quelle est la problématique de l'accueil ? Est-ce que c'est difficile de les accueillir et comment peut-on les accueillir mieux si finalement on en accueille ? Donc ce point-là est sorti de manière assez marginal, mais quand même présent.
Jean-Paul Bailly, garant du Grand Débat, vous avez reproché à Emmanuel Macron son omniprésence médiatique pendant le Grand Débat. Diriez-vous que l'omniprésence médiatique du président a faussé le débat ?
Non, on ne dirait pas qu'elle a faussé le débat. Simplement, parmi les principes du Grand Débat, il y a celui de la neutralité. Donc on s'est posé la question de la présence de l'exécutif par rapport à la neutralité. Et on a jugé que, dans un premier temps, les interventions répétées du président de la République avaient eu un effet d'entraînement, un effet positif, un effet de publicité sur le grand débat, et donc l'avait rendu très présent.
Et sur lui-même ?
Non. Nous, on ne peut pas juger de ce point-là. Mm-hmm. Mais sur le fait que ça a entraîné, une adhésion, ça a facilité une adhésion populaire au grand débat, certainement. Et que par la suite, ces interventions plus répétées et plus médiatiques pouvaient jeter un doute sur la nature et l'objectif du grand débat.
Et en choisissant lui-même les quatre thèmes du débat, Emmanuel Macron a-t-il orienté le débat dans le sens au fond qu'il souhaitait ? Et est-ce que ça n'invalide pas le débat
en Non, lui ça
et
invalide...
les résultats ?
Non, ça n'invalide pas le débat. De toute façon, dès le départ, la règle du jeu était assez précise puisqu'il y avait ces quatre questions et les Français sont assez grands pour sortir de ces questions-là. Mmh. Le problème des questions est double parce que on ne peut pas démarrer sans aucune question. On ne peut pas démarrer sans aucun cadrage. Déjà là, avec ces quatre questions, on voit à quel point c'est foisonnant et très difficile à interpréter. Donc je pense qu'il y avait besoin d'un cadrage.
Et une dernière question, c'est que Emmanuel Macron va maintenant devoir faire des propositions. Le Premier ministre est plus ou moins convaincu que les Français seront déçus par les propositions. Dites-nous à titre personnel, quelles mesures le président doit prendre en priorité sous peine de décevoir ?
Oui, je vous répondrai pas sous ce plan-là, mais je peux vous dire un point qui est important, c'est que je pense qu'il y a des décisions symboliques et urgentes à prendre, mais que tout aussi important est la manière dont les Français seront associés aux décisions de demain.
Et symbolique, c'est les baisses d'impôts.
Oui, si vous voulez, oui.
Merci beaucoup, Jean-Paul Bailly.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, 8h30, l'essentiel de l'info. Carlos Ghosn s'exprime. On savait que l'ancien patron de Renault, Nissan, qui est incarcéré à nouveau, avait enregistré en amont une vidéo juste avant sa nouvelle arrestation. Elle vient d'être mise en ligne, vous l'entendrez. Il se dit innocent et victime de trahison de la part de certains dirigeants de Nissan. A tout de suite.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
David Abiker, dans quelques instants, l'homme qui lit la presse entre les lignes, il lit les unes, il lit le petit journal local comme la presse nationale.
Bonjour Nikos, bonjour Céline.
Bonjour.
Je me suis marré ce matin. Pourquoi ? Parce que le Parisien révèle que les Français se trouvent drôles. Mmh. 70% des Français se trouvent drôles et finalement c'est plus sérieux que ça.
C'est ce que dit Canteloup, hein. L'humour est une affaire très sérieuse. Vous le retrouverez à 8h40 pour la revue de presse. Ce ne sera pas du cirque, c'est un circassien qui nous fait du bien.
A tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Et avec un temps qui, dans l'ensemble, est très agité, pas facile à résumer. Hein. C'est vraiment très compliqué
allez,
aujourd'hui.
On essaie quand même.
On va essayer, oui. Les brouillards, j'en ai pas parlé depuis ce matin. Il y en a c'est énormément. Ouais. Lot-et-Garonne, Gironde, Dordogne, Mayenne, Finistère. J'ai pas pu tout citer. Dans toutes les régions où vous avez du brouillard, chers amis, sachez qu'il y aura des éclaircies et du soleil cet après-midi. Sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la région parisienne et la Champagne, ce sont des pluies assez fréquentes quand même, surtout ce matin, et ensuite un régime d'averse l'après-midi. Et sur le nord, la Picardie et les Ardennes, les pluies seront là pratiquement toute la journée, peu ou prou. En Franche-Comté, Rhône-Alpes, c'est pas mal. En deuxième partie de journée, à l'heure du goûter, ce sera pas trop mal. En Aquitaine, Pyrénées, Midi-Pyrénées, littoral méditerranéen, Massif central, Centre et Normandie, c'est un régime de giboulée auquel nous sommes maintenant accoutumés. Mm-hmm. Enlève ton escabrol. Le 14 degrés à Deauville, le 15 à Nancy cet après-midi, le 16 à Bordeaux, le 17 à Paris, le 18 à Lyon et le 19 à Grenoble, c'est ce qui vous attend.
Merci beaucoup pour ce 99e jour de l'année, c'est la Saint-Gaultier aujourd'hui. À tout à l'heure pour un autre point météo, Laurent Cabrol.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Mardi 9 avril, toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nico Saliagas.
La riposte de Carlos Ghosn. On savait que l'ancien patron de Renault Nissan avait enregistré une vidéo juste avant sa nouvelle arrestation. Elle vient d'être mise en ligne, Aurélien Fleureau.
Et on voit Carlos Ghosn se défendre. Comme prévu, on le découvre face caméra, costume sombre, chemise blanche.
The first message is I'm innocent. It's not new. You have heard it from me. I'm innocent of all the charges.
Voilà, vous l'entendez. Hein. Je suis innocent de tout ce dont je suis accusé. Il parle d'éléments sortis de leur contexte pour créer un personnage cupide, un dictateur. Il charge clairement des dirigeants de Nissan hein, sans les nommer. Mm-hmm. Les avocats ont précisé que les noms avaient été expurgés de cette vidéo. Carlos Ghosn dénonce une nouvelle fois un complot. On m'a poignardé dans le dos, a-t-il dit, calmement mais déterminé comme à son habitude. Il a aussi tenu à rappeler qu'il aimait le Japon, qu'il aimait Nissan et ses employés, mais que certains managers avaient eu peur des projets de fusion au sein de l'alliance entre Renault et Nissan. Et Carlos Ghosn a terminé son allocution en demandant un procès juste. La vérité va éclater, a-t-il conclu.
Merci Aurélien Fleureau. Nous suivrons également toute la journée sur notre antenne cette affaire. Dans le reste de l'actualité, Édouard Philippe devant l'Assemblée cet après-midi. Le Premier ministre doit présenter les enjeux du grand débat. Les détails des suppressions de postes à la Société Générale dévoilés dans la journée. 1600 postes qui devraient disparaître, dont 700 rien qu'en France. Des départs volontaires, promet la direction. Et puis plus de 6 millions d'Israéliens aux urnes pour élire leur Parlement. Deux listes sont favorites, celle de Benjamin Netanyahou et de son adversaire de centre-droit, Benny Gantz, qui promettent une nouvelle voie.
Europe 1. Et maintenant, la Caisse d'épargne vous présente la revue de presse. Caisse d'épargne vous être utile. La revue de presse avec David Abicaire, bien sûr.
À la une de la presse ce matin, David, un sondage surprenant.
Son résultat est en une du Parisien aujourd'hui en France, nous apprend que les Français se trouvent drôles. Alors qu'hier, le Premier ministre mettait un terme à 3 mois de grand débat, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a fait rire personne, 7 Français sur 10 se trouvent marrants. Alors penchons-nous sur les résultats. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à se trouver drôles. Tiens, tiens. Les jeunes sont plus nombreux que les vieux à se trouver drôles. Les Parisiens sont les plus convaincus d'être drôles quand les habitants du sud-est de la France le sont beaucoup moins. Alors il y a une question, c'est est-ce que la perception qu'ont les Français d'être drôles n'était pas tout simplement liée à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, à leur ego, les hommes sûrs de leur pouvoir de séduction et de leur humour, les jeunes certains de pouvoir rire de tout et longtemps, les Parisiens tellement sûrs de leur humour. Impayables les Français, mais sans humour dès qu'on parle des impôts. Voyez ce matin les Échos. Nous devons répondre à l'exaspération fiscale. Exaspérer les Français. Le Figaro, Édouard Philippe déclare l'état d'urgence fiscale. Baisser les impôts, mais comment s'inquiète le Dauphiné libéré? Rien n'est drôle dans la presse ce matin si on parle d'impôts. Ceci dit, le comique surgit souvent là où on ne l'attend pas. Exemple dans ce lapsus du Premier ministre hier, quand il revient sur le lancement du grand débat.
Lorsque nous avons lancé, je suis coutumier du fait. Hein. J'ai un passif très fort en la matière.
Langer le grand débat. Langer comme s'il fallait changer. Langer comme si l'on avait en tête la colère des couches, les couches populaires. Alors oui, les Français sont drôles, surtout quand ils ne font pas exprès.
Ce matin, Geneviève Le Guay, la militante d'Attaque blessée à Nice, s'exprime pour la première fois, David.
Et elle parle de son lit d'hôpital, rapporte Nice Matin. Entre colère et douleur, la retraitée raconte ses blessures, donne sa version des faits, explique qu'elle ne regrette rien. Quant à l'enquête, Mediapart révélait hier soir que la policière chargée d'enquêter sur ce qui est arrivé à Geneviève Le Guay est la compagne du policier qui, ce jour-là, a ordonné la charge. Une proximité qui éclaire, selon Mediapart, d'un nouveau jour les incohérences de l'enquête.
Il parle aussi pour la première fois le directeur général du groupe Korian.
Oui, le groupe Korian qui gère l'EHPAD de l'Herme où sont décédés 5 résidents il y a une semaine. Un encadrement suffisant, des ingrédients livrés par Sodexo mais assemblés et cuisinés sur place, le même repas servi à tous les résidents, mais pas avec la même texture, certains pouvant être mixés. L'origine des décès reste à déterminer, explique ce dirigeant. Interview méticuleuse de nos confrères à retrouver dans la Dépêche. Et si les plateaux repas pouvait parler, il raconterait peut-être l'histoire des cantines, pas celle des EHPAD, mais celle des cantines françaises, des cantines scolaires. C'est une enquête à lire dans Libération, où comment les repas servis aux enfants sont le reflet de la société. Une enquête qui vient nous rappeler que les cantines scolaires sont créées en Bretagne au milieu du 19e siècle, que c'est en 1954 que Pierre Mendès France décrète le bol de lait sucré servi aux enfants, et que ce n'est qu'en 1981, que les boissons alcoolisées sont proscrites à la cantine. Il y avait des enfants qui arrivaient bourrés à l'école le matin dans les années 50 parce que les parents leur servaient un coup de jaja. Mais après les fruits, après le bio, c'est le contenant qui fait l'objet d'une grande vigilance en raison des soupçons qui pèsent sur les perturbateurs endocriniens. Les collectivités ont depuis l'an dernier 10 ans pour supprimer les barquettes en plastique dans les cantines. Voyez, la cantine, ça raconte l'histoire de France.
Et supprimer l'emballage, c'est la tendance également dans les grandes surfaces, David.
Car les Français sont de plus en plus nombreux à acheter en vrac. Plus d'un Français sur trois achète des produits au poids, nous expliquent les Échos. Au-delà des fruits et légumes, hein, fruits secs, lentilles, pois chiches, céréales, semoules, pâtrie, et même le vin ou l'huile d'olive. Et même les spiritueux, on vient avec son contenant. Ça concerne aussi la lessive, le liquide vaisselle, parfois l'hygiène et la beauté, et bien sûr les croquettes pour chiens. Le vrac séduit les écolos, mais pas seulement les mangeurs de bio, mais aussi une clientèle qui veut consommer juste ce qu'il faut et au juste prix. Alors pour l'instant, le vrac, c'est quoi? C'est 0,5% du marché, soit 500 millions d'euros. C'est pas grand-chose en France. Mais qui aurait parié sur l'extension des rayons bio il y a 20 ans? D'ailleurs, d'où ça vient, vrac? Ben, ça vient de Hollande et de Suède, où vrac, avec un W et un K, désigne ce que l'on jette. Eh bien, les consommateurs sont en train de lui donner un sens nouveau. Ils achètent en vrac, justement, pour ne pas jeter.
Vrac, merci David Abiker, c'était la revue de presse de la matinale d'Europe.
Avec la Caisse d'épargne, 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Il est presque là, l'infernal Nicolas Canteloup arrive pour son grand show avec son cortège de personnages. Julie arrive aussi dans quelques instants dans le studio. Gare aux dégâts, vous êtes prêts? À tout de suite.
Avec Nicolas Aliagas sur Europe 1, il est 8h39. Il est 8h41, la revue de presse avec Optimum, vos conseillers immobiliers experts et engagés tout près de chez vous.
Merci de nous faire plaisir, Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on va passer au titre principal de l'actu avec vous, Nikos.
Ouais, salut les amis, l'info se rend, c'est...
Oui, pardon, Laurent, qu'est-ce qui se passe, Laurent Cabrol?
Simplement, je voulais préciser, j'écoutais bien sûr toujours attentivement la revue de presse de David Abiker sur la mode du vrac. Moi, je tiens à dire que c'est pas une mode, hein. Moi, il y a longtemps que je me l'applique, hein. J'essaye d'arriver tous les matins en vrac. Hein, j'essaye également de faire ma météo en vrac aussi. Hein,
Ouais, toujours à l'affût, toujours à pointe. C'est notre Lolo Cabrol national. Merci, Laurent. L'info surrounds, c'est Édouard Philippe qui tire les premières leçons du grand débat. Et attention, chers auditeurs, la conclusion est dingue. Les Français ont envie, attention, roulement de tambour, qu'on baisse leurs impôts. Wow. 6 mois de bordel pour apprendre ça. Ça valait le coup. N'est-ce pas, Jean-Michel Apathy?
Il n'a pas dit exactement ça. Soyez précis, cher Nikos. Le grand dadé du Havre a dit qu'il faut baisser plus vite baisse les impôts. Et là, c'est pas des sucettes, hein, c'est dans la mesure de droite. Mais après, si on baisse les impôts, l'État n'aura plus une thune, plus rien, 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 rien pour payer les fonctionnaires. C'est mon analyse, à vous Julie, et je la partage.
Très honnête.
Édouard Philippe s'est donc exprimé au Grand Palais. Alain Juppé, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous l'avez trouvé comment, votre poulain ?
Écoutez, pour être tout à fait franc, seul sur scène, en orateur, je préfère Édouard Baird à Édouard Philippe. Quoique Édouard Philippe, peut-être très marrant aussi, entre ses bafouillages, nous l'avons entendu, ses savonnages, ses lapsus, on ne sait jamais où ça va aller. C'est un peu le cercle du soleil des discours, Édouard Philippe. Ce côté funambule, on ne sait pas où il va tomber, est-ce qu'il va tomber ou pas, on ne sait pas.
Bon, mais ça c'était pour la forme, mais pour le fond, le Premier ministre a dit qu'il fallait mettre fin à l'exercice. Aspirations fiscales. Ce sont quand même des termes forts, des mots forts.
Des mots forts, ce sont surtout des mots cons, à mon avis. Oui, parce que derrière, t'as intérêt à baisser les impôts pour tout le monde, sinon ça va gueuler sec. N'est-ce pas, cher Jean-Michel Apathy ?
Oui, tu l'as dit, Bouffi, c'est pas des sucettes, c'est pas des sucettes ! C'est mon analyse politique.
Et vous, Alain Juppé, vous pensez qu'ils ne vont pas le faire, alors ?
Alors, moi, il y en a encore expliqué à toi.
Oh,
parce que toi, apparemment, pas comprendre. Si toi, pas payé impôt,
oui.
Et t'as pas payé fonctionnaire, mais toi, vouloir beaucoup fonctionnaire en France,
bah oui.
Donc toi, payer beaucoup impôt.
Eh oui.
Eh ben, après 3 mois de grands débats, vous avez toujours rien compris. Écoutez, je me barre, on m'est saoulé.
Bah merci Alain Juppé, à bientôt quand même. Hein.
À bientôt.
Le prix de l'alcool a flambé après l'instauration du 1er février au 1er février de la loi alimentation. Le prix de la bière a carrément augmenté de 7%. Bonjour Martine Aubry.
Comment ça, bonjour Martine Aubry. Petite saleté, pourquoi moi ? On parle d'alcool et on pense à la mère Aubry, c'est ça ?
Non, mais non, c'est parce
quelle
que dans
goujate.
Le Nord, vous savez bien qu'on consomme beaucoup de bière, c'est pour ça.
Ah, d'accord, ça, d'accord, voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est même la bière, c'est même le premier budget des ménages avant l'éducation des enfants.
Oula.
Et encore, dans le budget éducation des enfants, il y a aussi un budget bière qui est prévu, vu que dans le Nord, on consomme de la bière dès l'âge de 8 ans.
Oula.
Bon, bref, alors, d'ailleurs, on se plaint toujours des cartables, hein, mais c'est vrai que quand on y met les livres plus les packs de bière, bah, qu'est-ce que vous laissez trop lourd pour nos bambins.
Bon, le moins touché des alcools, c'est le champagne. Ça hausse seulement de 1%.
Et voilà le travail. Merci Macron. Même dans la hausse des prix de l'alcool, il favorise les riches. Salon Macron.
Allez, merci Martine Aubry, calmez-vous. Hier, Édouard Philippe a livré les conclusions du grand débat dans un discours ponctué d'un lapsus dont le Premier ministre est coutumier. Il a parlé de longer le débat au lieu de lancer le débat. Et bonjour Édouard Philippe.
Oui, bonjour.
Mais parlons du fond, hein, si vous le voulez bien. Vous avez parlé d'une baisse des impôts.
La baisse des impôts, c'est pas les sucettes.
Merci, monsieur Apathy. Alors, madame Julie,
oui.
M'interroge sur le fion. Parlons du fion. Du fond. Parlons du fond. Non, s'il vous plaît, monsieur Lagasse, je sais que... Bon. Alors, les Français attendent que... Écoutez, les Français, je crois, attendent que nous arrêtions de chier parce que... De scier la branche. Pardon. J'ai un lourd passif. De scier la branche sur laquelle nous sommes assis, hein, qui est le dynamisme de la consommation. À mon avis, paralysé par les impôts, les Français attendent que les ministres baissent massivement les impôts.
Et ça relancera la croissance ?
Vous savez, pour relancer la croissance, il faudrait surtout buter les chômeurs. Muter les chômeurs en travailleurs actifs. C'est le seul remède, mais on peut y arriver.
Vous avez aussi fait votre mea culpa sur les 80 km/h.
Écoutez, concernant les 80 km/h, cette mesure était mal comprise. Ah. On m'a accusé de vouloir verbaliser à tout prix. Mais non, même si je souhaite évidemment remplir les fesses de l'État. Ça vous plaît. Remplir les caisses de l'État. Voilà. Écoutez, je peux y aller parce que je sens que vous avez fait une provision de lapsus pour les 30 prochains bêtisiers de Noël.
Oui, ça ira. On va vous laisser. Merci, Édouard Philippe. Après le grand débat, les impôts devraient baisser. On parle par exemple de baisser la TVA des produits de première nécessité. Bruno Le Maire, bonjour.
Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, Monsieur Aliaga. Et bonjour aux autres, que je respecte, même si pour moi, ils sont moins intéressants. Écoutez, concernant les produits de première nécessité, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Les Français en ont besoin. J'ai donc décidé de travailler sur ce sujet avec les supermarchés, avec ces structures de vente, et je suis en ce moment même en train d'enregistrer quelques annonces.
Ah ben, on vous écoute.
Chers clients, c'est la fête des yaourts dans votre magasin Super Champion. Alors, pour fêter cela, le paquet de 12 yaourts fruits de la passion, avec de délicieux morceaux de fruits mixés, bénéficie d'une suppression totale de la TVA. Désormais, au lieu, chers clients, de payer 2,49€ pour ces succulents yaourts, dégustez-les pour seulement 2,49€. Merci Super Champion, Super Champion, des prix canons.
Non mais attendez, mais c'est le même prix, enfin, 2,49€. Mais ça n'a aucun effet, votre baisse de la TVA.
Oui, pour le consommateur, non, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, ça fait un peu plus de marge pour la grande distribution, qui nous a promis qu'elle créerait en échange des emplois. Un peu comme le CICE qui marche déjà très bien. Vous voulez pas un yaourt?
Non.
Excusez-moi, j'ai une annonce.
Ah, oh, bah allez-y encore.
Le petit Nicolas Barré attend ses parents, caisse 12.
Allez.
Le petit Nicolas Barré.
C'est bon.
Caisse 12.
Merci Bruno Le Maire. Allez, on passe au football. Le PSG devra attendre pour être champion.
Oh, regarde les
L'équipe n'a fait que match nul contre Strasbourg à cause d'un incroyable raté de son attaquant Choupo-Moting. Kylian Mbappé, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors, vous avez été très élégant avec le joueur. Hein. Vous avez déclaré sur les réseaux, j'en ai raté bien plus que toi cette saison. On reste un groupe uni, on te soutiendra jusqu'à la fin.
Oui, écoutez, c'est vrai, j'ai raté cette année beaucoup plus d'occasions que Mouton Shopping.
Choupo-Moting, c'est son nom.
Oui. Oui, oui, peut-être. Non, mais comme il ne joue jamais, je n'ai pas le temps de lire son nom sur le maillot.
Mais c'est pas grave, comme vous l'avez dit, c'est un groupe uni. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est une équipe, il faut être complémentaire, je crois, dans une équipe. Lui, il rate, moi, je marque. Moi, je suis champion du monde, lui, il sera rien. Moi, je vais finir en légende, lui, il va finir au bistrot. Ou pire, à stade 2, voilà, on est...
Oh là là.
On est une équipe, soudée. Il faudra quand même penser à le dessouder, chapeau pudding.
Non, c'est pas chapeau pudding. Choupo-Moting, allez, merci Kylian.
Non, shopping,
Jean Lassalle est candidat aux européennes.
Jean Lassalle.
On avait donc envie d'entendre son analyse du grand débat. Bonjour Jean Lassalle.
Bonjour madame, bonjour mon collègue de vrac. Monsieur Gavroche. Ravi, on est souvent en vrac, tous les deux. Et ravi de monter à la capitale pour venir vous voir.
Alors,
c'est un plaisir toujours renouvelé.
Plaisir partagé. Dites-nous, vous avez regardé Édouard Philippe hier?
Mieux que ça. J'ai moi-même tenu un discours important sur la sortie du grand débat, car j'ai entendu, oui, j'ai entendu la colère des Français avec mes oreilles attentives toutes déployées, et j'ai senti l'exaspération fiscale avec mon gros nez, qu'on appelle dans mon pays le tarin.
Vous avez tenu un discours important sur la sortie du grand débat.
Oui, c'était comme Édouard Philippe, un discours au grand poulet.
Non, au Grand Palais,
Grand Poulet.
Au Grand
moi,
Palais.
C'est, alors écoutez, chacun son truc, comme on dit chez moi, de façon triviale. Oui. Moi, c'est au Grand Poulet. Dans ma ferme, chez moi, je me suis installé dans le poulailler et en haut de l'escalier, il y avait le Grand Poulet. Et je me suis adressé à lui. Je me suis adressé au Grand Poulet. Ensuite, j'y me suis adressé. Il y avait également le Petit Poulet. Il y a le Petit Poulet, chez moi, le Grand Poulet. Et j'ai fait un discours, mon Grand Poulet. Je lui dis, non, mon poulet, j'ai entendu ton exaspération. Tu auras plus de graines dès le mois prochain. En revanche, je ne rêve pas, le mois d'après, quick.
Comment ça, quick?
Ah, mais il passera à la casserole. Il faut bien manger, vous savez.
Quelle horreur.
Il faut que le circuit... Vous voyez, la poire, le truc, c'est bon, je ne vais pas vous expliquer. Et d'ailleurs, c'est parce que je ne sais pas ce que je veux dire. Et d'ailleurs, je suis en improvisation. Je me régale tellement quand je vous parle. D'ailleurs, c'est ce qui va aussi arriver aux Français avec Macron. Pendant quelques temps, il va leur donner plus de graines. Et après, quick! Plus rien. Vous avez vu la finesse de mon analyse.
Ah, bravo. Très bon analyste, hein, Jean Lassalle.
Nicolas Cantelou et Julie pour la revue de presse. Tous les jours, ça nous fait du bien sur Europe 1. Bravo aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.
C'était la revue de presse avec Optim Home. Pour évaluer le juste prix de votre bien immobilier, rencontrez un de nos conseillers Optim Home ou rendez-vous sur oh-immobilier.com pour une estimation en 2 minutes chrono.
Dans 8 minutes exactement, le tour de la question avec Wendy Bouchard. Deux thèmes deux heures de débat.
Bonjour, chers amis. Absolument. Premier thème autour d'Israël. Élection législative très importante aujourd'hui pour le pays, 17e puissance mondiale, mais aussi pour l'équilibre du Proche-Orient. On va revenir sur cet enjeu géostratégique, sur la tentation d'un vote sécuritaire, avec peut-être un cinquième mandat pour le fameux Netanyahou, qui est l'homme qui cache un peu la réalité de ce pays, avec Serge Moati, auteur de Il était une fois Israël, et Frédéric Ancel, qui est un grand spécialiste aussi géopolitique et de ce pays. Et puis à partir de 10h, on va parler d'astrologie, de voyance, de médium. Ce sont des choses très différentes. On a tendance à un peu les assimiler dans une réflexion fourre-tout. Mais ce sont des arts divinatoires qui fascinent énormément. 15 millions de consultations de Français chaque année. Hier, pour un test, je me suis connectée sur Internet. Tout un tas de voyants étaient en ligne au même moment, 23h. C'est un peu aussi des réceptacles d'une certaine souffrance sociale et on en parlera.
Avec grand plaisir, Wendy Bouchard, à partir de 9h. Dans un instant, l'essentiel de la matinale, tout ce qui s'est passé ce matin depuis 6h50.
55 à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nico Sadiagas, mais tout de suite c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Un ciel chahuté aujourd'hui mon cher Laurent.
Bah oui, un peu comme les jours derniers, un peu comme demain et après-demain d'ailleurs. C'est un peu la météo de l'essuie-glace. Alors tantôt il pleut, tantôt on arrête l'essuie-glace, on le remet, on l'enlève et ainsi de suite. Et là nous aurons pratiquement tous, autant que nous sommes, à un moment ou l'autre de la journée, un peu de pluie, excepté quand même la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et la vallée de la Garonne. Partout ailleurs, à tout moment vous pouvez risquer l'orage. Et vous risquez aussi les giboulées ou les averses. Bref, c'est une journée comme celle-là que nous allons vivre, que nous aurons demain, de la même manière, comme après-demain. Et la bonne nouvelle, je termine par là, le congé de fin de semaine s'annonce plutôt ensoleillé ou globalement ensoleillé. Voilà.
On aura l'occasion d'en parler lors des prochains jours sur notre antenne. Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Nous sommes le mardi 9 avril, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Sadiagas.
L'essentiel, ce qu'il fallait retenir ce matin, les impôts d'abord et la corvée de la déclaration de revenus. Vous la recevez en ce moment dans vos boîtes aux lettres, même avec le prélèvement à la source, il faut tout de même la remplir. Ce sera peut-être la dernière fois. Explication, Anne-Laure Jumet, c'était dans le journal de 8h avec David Doucan.
Cette déclaration, elle va servir cette année à actualiser votre taux d'imposition. Et ce nouveau taux, eh bien, il s'appliquera à la rentrée prochaine sur vos revenus du moment.
La corvée de la déclaration de revenus va disparaître. C'est le projet de Gérald Darmanin. C'est pour quand? C'est pour qui?
Alors, c'est prévu pour l'an prochain et ce sera progressif. Première cible, ceux dont la situation ne change pas d'une année sur l'autre. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin en nous incitant à mettre à jour au fil de l'eau notre situation fiscale. Alors, il y a la question des indépendants et puis aussi celle des niches fiscales, hein, nombreuses en France. La disparition pour tous n'est donc pas encore pour demain.
On les appelle les nouveaux Tanguy. À plus de 40 ans, ils reviennent habiter chez papa-maman. Divorce, licenciement, difficultés financières. 7% des 30-50 ans auraient déjà vécu une drôle d'expérience de ce type, comme Nicolas, 41 ans, qui vit chez ses parents depuis 3 ans après la faillite de son entreprise. Et la situation n'est pas toujours simple au quotidien. Écoutez, c'était à 7h20 dans Repas va plus loin.
Des tensions, oui, sur l'heure des repas, parce qu'il m'arrivait peut-être de ne pas revenir à l'heure ou des choses comme ça. Et j'ai des parents qui sont assez rigides sur l'horaire avec des repas assez fixes. Les anecdotes du pire moment, on va dire, c'est peut-être le fait d'essayer d'avoir à nouveau une vie intime. Vous revenez avec une personne chez vos parents. Votre chère maman, on va dire, se demande ce qui se passe et débarque dans la chambre, par exemple. C'est arrivé une fois, oui. C'est marrant, c'était des flashbacks de mon adolescence, parce que des choses que j'ai vécues quand j'étais ado et je vivais chez eux. Donc.
Évidemment, ça nous rappelle le film Tanguy qui sort demain au cinéma. Tanguy, le retour avec Étienne Chatillez qui sera l'invité d'Andromanov à 11h sur Europe 1. À 7h45, ce matin, je recevais l'un des humoristes préférés des Français, Gad Elmaleh. Il nous a parlé de sa nouvelle série Événement qui sort bientôt sur Netflix, Huge in France. C'était aussi l'occasion de répondre pour la première fois aux accusations de plagiat dont il est victime. Voici sa réponse.
Ce que je propose, qu'on propose, c'est un regard. Si je vous dis, est-ce que vous avez déjà mis un truc dans le micro-ondes, vous l'avez fait chauffer, au bout de 4 minutes, vous le ressortez, le plat est brûlant et l'intérieur
est froid.
Ouais. Ça, c'est un point de départ pour écrire un petit sketch. Dans notre entourage proche, il y a à peu près, on a compté 14 ou 15 humoristes entre des Français, des Anglais, des Écossais. C'est une observation.
Donc la même vanne.
C'est pas la même vanne. C'est une observation qui n'appartient à personne. Et après, libre à toi de dire ce que tu veux là-dessus.
Un bon anniversaire ce matin, Jean-Paul Belmondo, 86 ans, le légendaire, l'immense, l'intègre Belmondo, avec la musique du film L'As des As que vous entendez, Vladimir Cosma, mais on pourra en citer tellement, Le Professionnel, Un singe en hiver, Pierrot le fou, À bout de souffle,
itinéraire chacun... Itinéraire d'un enfant gâté.
Évidemment, chacun a son Belmondo, mais on n'en a qu'un et c'est lui et on espère le garder le plus longtemps possible. Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes, merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de votre fidélité. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Elle arrive, Wendy Bouchard, avec le tour de la question. Ça commence dans quelques secondes.
On vous attend avec Julie au 39-21. À demain, Nikos.
À demain,
ciao.
Céline Lacosta.
À demain, Nikos.
Prenez soin de vous, les amis.